Luce Buchheit, quand la lumière des mots vient apaiser la souffrance. Luce Buchheit est née à Metz, en Lorraine, puis a vécu en Algérie durant les années de guerre où elle a fait ses études secondaires. Par la suite, elle rejoint Paris pour y suivre des études de psychologie, puis part à Tahiti avec son mari. Elle y exerce durant 17 ans le métier de psychologue dans divers domaines. Psychiatrie infantile et adulte, affaires sociales, protection de la mère et de l'enfant et assistance aux enfants en danger dans des brigades d'intervention d'urgence. De retour en France en 1994, elle s'installe en Pays basque. Dès lors, l'écriture qu'elle a toujours eue chevillée au corps devient son activité principale. Elle publie Adié en 2008, puis No Tahiti en 2010. Je l'ai rencontrée à la fête du livre à Sainte-Afrique en Aveyron au mois de juin. Nous nous sommes installés sur les marches de l'église et nous avons commencé à parler. Notre discussion a tout d'abord reporté sur l'école verte, puis sur ses romans qui traitent, à partir de ses expériences intimes et professionnelles, de la condition humaine et plus particulièrement de la condition des femmes. On disait qu'on vivait une drôle d'époque.
Oui, on vit une période tout en contraste qui sont parfois déstabilisants. Là, j'étais partie prendre une pause sur le pont, juste au-dessus du livre en fait, là, et j'étais en train de contempler les colverts, donc une pure merveille qui, paraît-il, ne sont chassés que par les inondations, sinon ils vivent en paix. Et je parlais avec une dame, probablement. Je ne sais pas comment on peut dire, une dame qui survit, hein, une dame avec des petits moyens, qui me disait « Et en haut, qu'est-ce qu'ils font en haut? Ils ont tout détruit, et qu'est-ce qui nous reste ?» Et je lui disais « Madame, la vie. La vie, il nous reste la vie. » Et c'est ce que je pense profondément. Je suis restée 40 minutes à parler de cela, de « Il nous reste la vie. » Et on va continuer, enfin, je vais continuer, moi, à vivre et à écrire et à témoigner de la vie.
Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de vos romans?
Alors c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont, ils sont pas nombreux, hein. Il y en a deux, le troisième j'espère sortira dans maximum 2 ou 3 mois, c'est que je les veux témoins puisés dans une expérience entièrement personnelle, entièrement autobiographique, mais peu importe, c'est pas moi la vedette. L'héroïne de ces livres, c'est la condition humaine. C'est la condition humaine, c'est le désespoir, c'est l'espoir, c'est la pauvreté, c'est l'action d'en sortir, le militantisme si on peut dire. C'est, peu importe que ce soit moi. Donc ces livres sont des témoins des temps. Donc le premier qui continue à vivre, qui s'appelle Adié, qui veut dire privé de lumière, le premier continue à vivre, je l'emmène dans les salons avec moi et bien qu'apparemment privé de lumière, il continue à mener sa vie. Et le second, No Tahiti, qui lui a été écrit en pleine lumière, vit sa vie aussi tranquillement, se vend bien et convainc les gens qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas probablement d'enfer non plus, du moment qu'on est décidé à voir clair, à voir la lumière. Voilà.
Dans No Tahiti, Luce Buchheit, par le prisme de son travail de psychologue, décrit des situations particulièrement douloureuses. L'image d'Épinal que nous avons de Tahiti se fissure et les belles vaïnées disparaissent au profit d'autres figures, celles de femmes essentiellement, victimes de dérives telles que la maltraitance, la prostitution, l'abandon, le viol.
Le prisme par lequel j'ai regardé, c'est quand même l'entrée est professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas une population ordinaire, c'est une population auprès de laquelle j'ai vécu, qui était dans l'obscurité de la souffrance et pour laquelle j'ai tenté de faire des filets, hein, des filets de contention contre la souffrance, contre l'abandon, contre la misère, contre le désespoir. Donc c'est une population qui paraît restreinte, mais qui quand même représente un échantillonnage de toutes les souffrances humaines, hein, c'est-à-dire agression, abandon, rejet, tout est contenu dans cette apparente petite population. Voilà, No Tahiti.
Qui concerne quand même surtout les femmes, on dirait.
Oui, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Avec les événements récents, on s'aperçoit aussi La lutte entre les classes concerne encore plus les femmes, puisque j'ai envie de dire, comme les féministes, que les prolétaires des prolétaires sont encore les femmes. On le voit malheureusement avec l'affaire Strauss-Kahn, c'est pire que ça, quoi. Bon, s'y mêle une histoire de puissant face à quelqu'un de démuni, du genre féminin et de race noire. Donc là, c'est un cumul, c'est vraiment un cumul. Et donc les femmes sont plus, bien plus victimes, puisqu'on s'aperçoit avec cette montée en puissance d'une poignée de riches, que les femmes vont être, si on y prend garde, laissées encore une fois à l'abandon, par la langue de bois. Où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on? Quand les femmes auront-elles le courage? Là, depuis ce matin, j'en parle. Hein, j'en parle avec des personnes de ce qui s'est passé chez nous, en France, enfin... Ça s'est passé en Amérique, mais il s'agit d'un puissant de notre pays. Si nous, les femmes, ne nous soulevons pas contre ces violences, qu'est-ce qui va se passer? Je suis maman de deux filles, et moi je resterai debout jusqu'au dernier souffle pour les protéger, pour protéger à travers elles toutes les femmes. C'est sûr, ça c'est sûr.
Des histoires de souffrance, donc, à l'image de la première histoire que nous raconte Luce Buchheit. Roy Mata, petite fille qui aurait dû naître garçon selon le désir de son père et qui est rejetée du fait de la nature de son sexe.
Roy Mata. Roy, c'est les larmes et Mata, c'est les yeux. La pluie des yeux, les larmes. Voilà le prénom de cette petite fille. Elle s'appelle Les Larmes, en fait. Voilà.
Et vous pouvez nous dire en deux mots cette histoire?
Oui, Roy Mata, c'est l'histoire de... Ça se passe à Tahiti, donc dans un foyer chrétien. Dans un foyer chrétien, il faut le noter quand même, parce que pour moi, le Christ, c'était le premier socialiste et le premier humaniste. Et voilà. Et donc elle naît dans un foyer chrétien, mais quand même, il y a un acharnement du père à vouloir, comme on dit couramment, un héritier mâle qui n'arrive pas. Et donc la maman se voit contrainte, elle n'a pas le choix. Aujourd'hui, ça s'appellerait du viol conjugal, mais enfin, elle se voit contrainte de faire un enfant mâle à son mari. Et pas de chance, Roy Mata poursuit la lignée des filles et donc est totalement refusée pour son genre féminin. Et s'ensuit une vie de petite fille absolument misérable dans le noir, j'ai envie de dire dans le noir dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de lieu, elle n'a pas de chambre, elle n'a pas de lit, elle ne va pas dans la nature, elle ne reçoit pas un sourire, elle ne reçoit pas un cadeau, jusqu'au moment où elle présente des symptômes qui signent une entrée, je ne sais pas si j'ai envie de dire dans la maladie mentale, mais qui signent une entrée dans une souffrance cette fois-ci très grande. On la voit s'arracher les sourcils, on la voit refuser totalement son corps de femme et ses règles. Il y a un moment... On la voit hurler de désespoir à l'arrivée de sa féminité, des signes évidents de sa féminité. Donc c'est une souffrance absolument terrible, avec une maman qui fait ce qu'elle peut, qui elle ne rejette pas sa fille et qui est sous emprise et qui finit par en mourir. La maman finit par en mourir. La jeune fille, j'espère qu'elle est sauvée, j'ai pas de nouvelles d'elle, parce que Joy Mata et tous les autres ont existé. Ce sont pas des personnages, ce sont des personnes. Donc elle est sauvée par une famille d'accueil qui l'accepte en tant que fille. Voilà, ça c'était la première histoire. Elle est dure, oui. Elle est dure.
La mère de Reva est arrivée tôt le matin, avec une cousine pour aider à la naissance du fils tant attendu. Elle douche Reva, l'allonge sur un matelas mince posé à même le sol, la recouvrent d'un pareux. Elles unissent leurs voix en berceuse pour faciliter le travail de la mise au monde. La présence des hommes est appuie. Ils doivent rester à distance, dans une attente fervente. Tino s'est retiré sous l'abri qui sert de garage. Sous le toit de tôle, la chaleur est suffocante. Mais Tino y est indifférent. C'est là qu'il vient quand il se sent trop nerveux et qu'il veut se contrôler pour ne pas battre Reva. Aujourd'hui, il n'est pas seul. Il partage la bière glacée avec des camarades qui lui affirment qu'un beau garçon lui naîtra dans quelques heures. Il portera le prénom du grand-père paternel, Hiro. La tête lui tourne. Il met toutes ses forces à les croire, mais il lui faut encore une bière, puis une autre, pour en avoir la conviction. La lassitude et l'impatience se mêlent dans son cœur en alerte. Il se sent rattrapé par la fatigue quand la jeune accouchée hurle sa délivrance. Alors, il défie tous les tabous et se précipite dans la minuscule pièce sans attendre l'autorisation des femmes. Ses amis n'arrivent pas à le retenir. Il crie « Où est mon fils ?» Reva et ses compagnes gardent un silence atterré. Une des mamas désigne d'un signe de tête le nouveau-né qui repose à plat ventre sur le sein de sa mère. Tino ordonne « Montre !» Reva obéit. Elle retourne doucement l'enfant. Elle baisse les yeux. Elle s'attend au courroux de son homme. Il va se sentir trahi. Il est là, silhouette trapue et sombre, les bras le long du corps, les poings serrés. Il a tout vu d'un coup, le ventre de son enfant, le visage de sa femme sur lequel roulent des larmes silencieuses. Alors, d'une voix qui sent la révolte et la bière en excès, il gronde les dents serrées. « Je l'appelle Roy Mata !» Il fuit la pièce, le regard vide, mais ralentit son pas. Son orgueil lui commande de cacher sa déception. Il rejoint ses compagnons d'une nuit sous le toit de tôle. Il boira encore beaucoup de bière pour accepter sa défaite d'homme. Il n'ira pas à la mairie reconnaître sa troisième enfant. Les femmes restent en silence. L'une d'elles saisit Roy Mata entre ses mains durcies par les ménages et le tissage du pandanus. Elle l'enduit de monoï et l'amasse longuement. Par ses gestes effectués infiniment lentement, elle cherche à éloigner une malédiction, à apaiser la colère des dieux. Roy Mata ne recevra pas de second prénom. Elle demeurera une larme, celle qu'elle versera ou celle qu'elle fera verser aux autres. Roy Mata est coupée de sa généalogie. Elle a une biographie, mais pas d'histoire. Extrait du roman de Luce Buchheit, No Tahiti. Autre destinée tragique, Ina, nom de fleur, victime de viol par son père. Et quand Luce Buchheit nous parle de cette petite fille de 11 ans, elle retient difficilement l'émotion qui la submerge.
Donc la petite Hina, Hina c'est un nom de fleur, c'est la fleur du pandanus, c'est un nom de fleur, bon, c'est un joli prénom et elle a un papa qui suit ses pulsions. Donc sa mère vient d'accoucher d'un petit garçon, je crois, je ne me souviens plus très bien. Et donc elle va servir, elle sert de compagne, elle est utilisée comme compagne. J'ai même pas envie de dire de substitution, parce que je ne sais pas si son père fait la différence. Elle est donc utilisée comme compagne par son père, a le courage, enfin il y a quand même un signalement qui est fait par les affaires sociales, du coup se sent le courage, cette petite, de dire oui, je dépose plainte, oui je vais parler, et elle est bloquée. Elle est bloquée par les gendarmes qui l'accueillent en lui disant, ah oui, c'est toi, la chienne, c'est toi qui avais déjà dénoncé ton père il y a, alors je ne sais pas, moi 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc on s'aperçoit très bien dans cette histoire vraie, j'étais la psychologue à ses côtés, que la petite a déjà été refoulée plusieurs fois par ce qu'on appelle les forces de l'ordre, c'est-à-dire la gendarmerie française. Elle a déjà été refoulée et maltraitée, injuriée, et elle y retourne avec beaucoup de courage jusqu'au moment où elle est définitivement rejetée parce qu'un expert gynécologue de Lille, le seul assermenté, nie toute effraction sexuelle, nie. Et la petite se réfugie, si on peut dire, dans la prostitution. Après s'être réfugiée dans les bras d'une jeune cousine, Germaine, et que des psychologues, dont je ne dirai jamais le nom, que des psychologues ont rejeté pour cela, pour cette relation homosexuelle, en essayant de la convertir à une relation avec les hommes. Enfin, bon, j'ai pas envie de commenter ça.
Luce Buchheit vient de terminer son troisième roman, Histoire de femme encore, à laquelle se mêle une histoire d'immigration. Luce Buchheit s'inspire à nouveau de sa propre expérience, de sa situation d'immigrée malgré elle. Après avoir vécu en Lorraine, en Algérie, à Paris, à Tahiti, sans avoir jamais vraiment fait le choix de ces lieux, elle a enfin trouvé son chez-soi en Pays Basque, où elle écrit inlassablement. Une pratique de l'écriture inhérente à cette nouvelle liberté qu'elle goûte avec bonheur.
Le dernier roman, il est très 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 bizarre. Comme disait Françoise Malégeorie, c'est bizarre l'écriture. Il va balayer, puisque ça y est, j'arrive à être sexagénaire quand même. Il arrive à balayer, mais pas à donner un coup de balai. Il arrive à balayer, je ne sais pas, comme balayer une caméra, comme balayer un projecteur. 60 années de vie avec pour une personne centrale, la mère. Je dis bien la mère et non pas ma mère. Alors ça a été fait, bien sûr. Mon Dieu, Marguerite Duras, mon Dieu, Annie Ernaux, elles l'ont toutes fait. Alors j'ai fait ce chemin-là à ma façon, à moi. J'ai fait ce chemin-là à ma façon à moi parce qu'il s'y mêle en plus de la relation mère-fille qui a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et on n'en viendra jamais à bout de cette relation-là qui est très complexe. Il s'y mêle également le problème de, moi j'appelle ça, l'émigration ou l'immigration. Je ne sais pas comment il faut dire. Puisque née en Lorraine, j'ai dû suivre mes parents en Algérie, en pleine guerre de libération FLN. Voilà, donc j'y suis restée 8 ans. Après quoi, je n'en pouvais plus de cette vie des colonies. Mineure, j'ai demandé à mon père l'autorisation d'aller en France. J'ai fait mes études à Paris, autre déracinement. Donc on passe de la Lorraine en Algérie à Paris, où je ne me suis pas plu du tout. 11 ans et demi de Paris, mais sans affinité avec Paris, excepté les études. Et puis là, rencontre avec le père de mes enfants, que j'ai suivi à Tahiti. Donc c'est un ouvrage très complexe, parce qu'il mêle, et ça se rejoint de toute façon. Il mêle les relations avec une mère, des relations difficiles, bien entendu, pas des relations porteuses et qui bercent et qui consolent et qui sécurisent, pas du tout. Une espèce d'immigration hors de la mère, à l'extérieur, de la mère qui repousse l'enfant, et une immigration hors de sa terre. Voilà, pour ensuite arriver, la fin est heureuse, hein. La fin est heureuse, puisque après cette immigration, il y a une arrivée dans le, comme je le dis, c'est le premier pays que j'ai choisi depuis ma naissance, c'est-à-dire la côte des Pyrénées-Atlantiques, le Pays Basque. Celui-là, je l'ai choisi entièrement. Et donc, c'est une fin heureuse puisque je vis chez moi. Je m'enracine dans ce pays. Ma maison, je l'appelle Eguia. En basque, ça veut dire la vérité. Voilà. Et donc, je me sens libérée de toutes les chaînes de l'immigration, des rejets nombreux. Parce qu'il y a aussi les rejets xénophobes et racistes quand on vit à l'étranger. J'ai dû essuyer des rejets des Algériens après l'indépendance, des Tahitiens après que Tahiti soit devenu un territoire autonome. Et là, je suis libre, j'arrive libre dans un pays que j'aime. Et donc, je vais le lâcher, tant pis pour le copyright, c'est les mains libres. Voilà, donc c'est un livre que j'ai écrit, les mains libres, donc je me sens enfin libre. J'ai mis un point final, il doit y avoir 5 jours, je pense.
Luce Buchheit a désormais tout son temps pour s'attaquer à de nouveaux romans et retravailler ceux déjà écrits. Un fil conducteur les relie, qu'ils soient presque achevés ou qu'ils soient à venir. L'identité et la lutte contre l'exclusion et contre toutes les discriminations.
Quand je parlais tout à l'heure avec la dame, je n'avais pas mon dictaphone ni un carnet, mais tout ça sera mis tout à l'heure, pas plus tard que ce soir, là, dans le lieu où j'habite à Sainte-Afrique pour 2 jours. Voilà, et puis, il y a tous ceux qui sont écrits depuis des années, et j'attendais d'avoir le temps, la disponibilité pour les peaufiner et les faire paraître. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu comme chez Marguerite Duras, on va trouver quand même quelque chose de très obsessionnel, c'est-à-dire ça va tourner autour des identités. Identité, les ethnies, hein, tous les peuples réunis, lutter contre l'exclusion des peuples les uns vis-à-vis des autres, contre toutes les formes d'exclusion. Ça sera vraiment la charnière, la colonne vertébrale de tout ce que j'écris et qui se passe en Lorraine, à Tahiti, en Afrique, en Pays Basque, on va retrouver toujours la même chose. Voilà, la lutte contre l'exclusion, la lutte contre toutes les discriminations, mais sous forme romancée, avec des textes énormément travaillés, je crois qu'on en avait déjà parlé, je les travaille, je les cisèle. Et plus les phrases apparaissent courtes, plus ça veut dire qu'elles ont été aimées, travaillées, portées, entourées, voilà. Voilà.
Militante infatigable, Luce Buchheit se bat contre toutes les discriminations, à commencer par les discriminations faites aux femmes. Un combat toujours d'actualité, que ce soit dans nos pays occidentaux ou sur d'autres continents. Luce Buchheit est une romancière ancrée dans son temps et qui, par ses écrits, nous ouvre les yeux avec poésie sur un monde dont la dureté ne saurait être ignorée. Adié est publié aux éditions Des Sylves et No Tahiti aux éditions La Cheminante. Ah, Luce Buchet, quand la lumière des mots vient apaiser la souffrance, un reportage d'Elsa Gourmand. Thank you.